Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Le hangar Y et ce qu'il faut y découvrir, ainsi que la sobriété gagnante, tout ça, c'est après votre journal. Bonsoir Guilhem de Prévoisin.
Et bonsoir Pierre.
Il est 19h. Très bonne soirée sur Europe 1. À la une du journal, une manifestation contre la réforme des retraites. Cet après-midi, sur les terres électorales d'Elisabeth Borne, un défilé fort en symbole.
Nous sommes le samedi 1er avril. À quel changement faut-il s'attendre? Nous ferons le point dans ce journal. La Russie prend à partir d'aujourd'hui la présidence tournante des Nations Unies, et ce pour un mois, une position qui ne va pas donner plus de pouvoir à la Russie, vous l'entendrez. Et puis TikTok est loin d'être réservé aux moins de 25 ans. Au contraire, de plus en plus de seniors se lancent sur ce réseau social. Reportage dans ce journal.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Beaucoup de pluie encore entre les Pyrénées et les plaines d'Alsace, le soleil qui revient depuis le Bordelais jusque sur les Hauts-de-France, ainsi qu'en basse-vallée du Rhône.
Météo complète, en fin de journal. Ils étaient donc plusieurs milliers à Vire cet après-midi pour protester contre la réforme des retraites.
6 000 d'après les syndicats, 3 000 selon les autorités, défilés dans le Calvados, donc à Vire, lieu hautement symbolique, terre d'élection d'Elisabeth Borne. La chef du gouvernement a répété une nouvelle fois que cette loi est nécessaire et que ce projet ne sera pas mis en pause. Elle souhaite néanmoins une concertation avec les syndicats et les différents groupes parlementaires afin d'apaiser le pays et dialoguer avec tous les acteurs sur la méthode. Si Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, a accepté de se rendre à Matignon la semaine prochaine. Côté parti, les écologistes ont d'ores et déjà décliné l'invitation de la Première ministre, tout comme les insoumis et les communistes avant tout.
Ouais, et si Elisabeth Borne reçoit bien les syndicats mercredi, Marlène Schiappa, elle, sera en une du magazine Playboy jeudi prochain.
Mais ceci n'est pas un poisson d'avril, mais c'est une première pour une femme politique. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire donne au magazine une interview et apparaît en robe longue et blanche à côté du drapeau français. Alexandre Chauveau, forcément, le choix du magazine fait réagir la classe politique.
Oui, et c'est surtout le timing qui interpelle. Quelques jours seulement après la fin du processus parlementaire de la réforme des retraites et alors que la contestation est toujours vive dans la rue, après Olivier Dussopt dans Têtu et le chef de l'État dans Pif Gadget, Marlène Schiappa se dévoile donc dans Playboy, interview fleuve de 12 pages et 4 pages pleines de photos pour parler féminisme, IVG ou droits des LGBT. Un plan de communication décrié par les oppositions, au premier rang desquelles Marine Le Pen.
Ça n'est pas le rôle, mais enfin à partir du moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise politique et sociale dans Pif Gadget. Je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi du coup.
Mais le choix du magazine divise également au sein de l'exécutif, inapproprié et maladroit selon certains députés Renaissance, justifié au regard des engagements féministes connus de Marlène Schiappa pour les autres. La secrétaire d'État n'avait en tout cas pas prévenu Matignon qui a découvert cela hier dans la presse. Le magazine paraîtra donc jeudi en même temps que la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
Merci Alexandre Chauveau du service politique de Repas.
Même si c'était pas un poisson d'avril, nous sommes bien le samedi 1er avril et ça implique eh bien plusieurs changements.
Revalorisation du RSA, des allocations familiales mais aussi de l'allocation chômage plus 1,9%. La dernière revalorisation date de l'été dernier, 2,9%. Ce coup de pouce est toujours suspendu à la validation d'un décret par le Conseil d'État. C'est vraiment une mesure exceptionnelle face à l'inflation, Margot Faudéré.
Oui, les partenaires sociaux ont fait différentes propositions, plus ou moins élevées, plus 6% pour la CGT par exemple. Finalement, une revalorisation de 1,9% a été retenue, soit 19 euros de plus par mois en moyenne. Seule la CGT a refusé de signer l'accord. En tout cas, cette année, il y aura donc bien 2 revalorisations de l'allocation chômage, à en croire le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. La prochaine, comme tous les ans, aura lieu en juillet. Et pour Denis Gravouille, en charge du dossier à la CGT, il faudra aller encore plus loin.
On a une revendication qu'on a réussi à porter et que les autres organisations syndicales appuient, c'est qu'il y a une vraie allocation minimale. Officiellement, il y a une allocation minimale de 30 euros à peu près, sauf que les gens qui sont en temps partiel, par exemple, il n'y a pas 30 euros par jour. Il est indispensable que l'allocation, elle démarre avec cette vraie allocation minimale en dessous duquel on ne puisse pas descendre.
Au troisième trimestre 2022, le montant de l'allocation mensuelle nette était de 1006 euros en moyenne, selon l'UNEDIC.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Parmi les autres changements de ce 1er avril, la trêve hivernale prend fin aujourd'hui et l'association Droit au logement redoute une accélération des expulsions locatives. Pour alerter sur la situation, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, à Toulouse, Nantes, Lille, ou Paris.
Et l'actualité, c'est aussi ce probable retour des soignants non vaccinés.
La Haute Autorité de Santé s'est prononcée en faveur de la fin de l'obligation de vaccination pour les personnels de santé. En Guadeloupe, il serait encore plusieurs centaines à être suspendus. Vont-ils être réintégrés ? Et dans le même temps, plusieurs voix s'élèvent pour demander le versement des salaires non perçus pour certains durant 18 mois. Plusieurs millions d'euros seraient en jeu. Reportage de Stéphanie Serac à Pointe-à-Pitre.
Sur le parking du CHU de Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, c'est un village qui s'est installé depuis un an et demi. Celui des personnels de santé suspendus qui ont refusé de se faire vacciner. Il serait encore près de 350, une situation unique en France. Parmi eux, Muriel, qui vend des chips locales pour arrondir les fins de mois.
Des chips de Madère.
Il y a encore 18 mois, c'est dans une clinique privée qu'elle officiait comme assistante sociale.
On fait comme on peut, on se débrouille. Mais c'est pas pour ça qu'on veut pas retrouver notre travail. On a des collègues qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des voitures. La décision de la Haute Autorité de Santé, elle ne représente pas grand-chose. C'est un deuxième combat, là, une négociation de la reprise.
Pour Gabi Clavier, déléguée syndicale, UTS-UGTG au CHU de Guadeloupe.
L'État a fauté, ne doit pas payer. La réintégration pour nous doit s'accompagner obligatoirement par le paiement de tous les salaires qui n'ont pas été payés. Nous avons le total des sommes dues. Pour le CHU seulement, ça représente 7 millions d'euros. Donc nous sommes très à l'aise sur ce dossier-là.
Pour l'instant, le centre hospitalier universitaire, principal interlocuteur, dit attendre les directives ministérielles et a jugé prématuré de parler de réintégration et de négociation. Stéphanie Serac à Pointe-à-Pitre pour Europe 1.
19h06, on marque une pause dans ce journal. Dans un instant, la Russie prend la présidence des Nations Unies pour un mois. Et puis le sport, puisqu'il y a du foot et du cyclisme ce week-end. A tout de suite.
Europe 1 soir week-end. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Guilhem de Prévoisin. Et la Russie prend donc les rênes des Nations Unies pour un mois.
La Russie succède au Mozambique à la présidence tournante de l'ONU. L'Ukraine dénonce une gifle au visage de la communauté internationale. Un peu plus tôt, Kiev évoquait déjà une mauvaise blague. Pour le géopolitologue Pascal Boniface, cette présidence russe était inéluctable et est plus forte en symbole qu'autre chose.
C'est vraiment très symbolique, ça ne donne pas beaucoup plus de puissance à la Russie. Donc elle préside la séance, elle qui fait tourner effectivement la parole, mais ça ne donne pas de pouvoir supplémentaire à la Russie. C'est rien de plus normal. Les États-Unis ont également présidé le Conseil de sécurité lorsqu'ils étaient en guerre contre l'Irak. Donc une fois encore, c'est le règlement avec des pays qui ne sont pas d'accord au sein du Conseil de sécurité. Mais cette présidence tournante est dans les règles et si quelqu'un avait voulu le changer, la Chine et la Russie auraient opposé leur veto. Donc c'est la limite de l'ONU, les membres permanents ont un droit de veto et on ne peut pas changer le règlement sans leur accord.
Des propos recueillis par Simon Bourtembourg pour Europe 1.
Le pape François va mieux, il est d'ailleurs de retour au Vatican.
Mais le souverain pontife de 86 ans est sorti ce matin de l'hôpital romain où il avait été admis il y a 3 jours en raison d'une bronchite. « Je suis encore vivant », a-t-il lancé aux journalistes en plaisantant. Il sera bien présent demain pour présider la messe des Rameaux, place Saint-Pierre à Rome, marquant le début des célébrations de Pâques.
Et le pape qui pourrait, même vu son grand âge, se mettre à TikTok.
Et oui, TikTok, ce réseau social plébiscité par les jeunes, a de nouvelles idoles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des jeunes influenceurs, mais des personnes âgées, chez eux, en EHPAD, avec ou sans petits-enfants. Ces seniors partagent leur vie sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, et ça cartonne, Nina Droff.
Sketch.
Valérian, je vais te montrer un truc de ouf.
Défi.
Aujourd'hui, on va faire des crêpes, les yeux bandés.
Ou encore danse.
Ou la Claude, ton déhanché laisse à désirer. Attends, tu vas voir un petit peu ce que c'est que mon déhanché.
Josette et Claude, 80 ans, font fureur sur TikTok avec l'aide de leur petit-fils Valérian.
Papy, qu'est-ce que tu fais ?
Eh ben, je suis en train d'écrire des mots que j'ai trouvés dans les commentaires sur TikTok. Tu me diras ce que c'est. Hein.
Pour le plus grand plaisir de leurs jeunes abonnés.
J'en ai un autre encore. Amazingue.
Amazingue ?
Ouais.
À ton avis, ça veut dire quoi ? C'est amazing. Ça veut dire génial.
Ah bon ?
Mais il y a aussi des seniors qui s'adressent directement aux gens de leur génération, comme Nicole, influenceuse beauté pour les plus de 60 ans.
Comment arranger un peu les défauts de l'âge avec un peu de maquillage.
Je suis passionnée de pouvoir aider à mieux vieillir.
Un véritable succès sur TikTok, ces nouveaux influenceurs comptabilisent parfois jusqu'à 2 millions d'abonnés.
Reportage de Nina Droff, le sport maintenant. Avec le cyclisme, et demain démarre la 107e édition du Tour des Flandres.
C'est l'un des moments du calendrier cycliste. Le départ sera donné demain matin de la Grande Place de Bruges, où vous trouvez déjà Axel May. Ce Tour des Flandres représente pour les Belges bien plus qu'une épreuve cycliste.
Oui, oui, bonsoir. Des 5 monuments du calendrier cycliste dans l'ordre Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Et bien de ces 5 classiques, de ces 5 courses d'un jour élevées au rang de monuments cyclistes, le Tour des Flandres est sans doute celle qui dégage la plus grande ferveur populaire. Quand on demande au directeur de course Wim Van Vering ce qui fait la particularité de l'épreuve, la réponse fuse.
Bah, c'est le public. Hein. Tout le monde en Flandre suit le Tour. Hein. Pas seulement les supporters du vélo, mais tout le monde. C'est une fête nationale.
Voilà, une fête nationale. Alors ce soir, un grand concert sera organisé devant le Beffroi de Bruges. En ce moment, les organisateurs finissent d'installer les barrières, puisque c'est de cette grande place que s'élanceront demain matin les coureurs. Et s'il a plu toute la journée sur les pavés, demain, le soleil est annoncé et jusqu'à 1 million de spectateurs devraient se masser le long du parcours.
Merci Axel May du service des sports d'Europe 1 et bonne course demain. Du foot avec la suite de la 29e journée de Ligue 1. On retourne à Auxerre où le match s'est terminé sur une victoire des Auxerrois. 1-0, score final Gérard Delorme.
Et oui, c'est terminé au Stade Abbé Deschamps avec une victoire pour la J Auxerre. 1-0, un but inscrit à la 70e minute par Niang suite à un centre de Dacosta. Coaching gagnant pour l'entraîneur de la J Auxerre, pour Pélissier qui a remplacé toute son attaque en première période, et c'est au moment où les Troyens poussaient pour ouvrir le score, et bien les Auxerrois sur un compte ont réussi à marquer ce but, celui de la victoire.
Gérard Delorme depuis Auxerre pour Europe 1.
Et l'autre match de la soirée, c'est Rennes-Lens, début du match à 21h. Bien sûr, on suivra ça chez vous, Lionel Rousseau, dans Europe 1 Soir, Embrasse Pain Sport d'ailleurs. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Pierre. En effet, cette rencontre avec nos envoyés spéciaux, nos experts pour l'analyse en direct, match important, puisque vous le savez, Marseille a été tenu en échec hier au stade Vélodrome, et Lens pour revenir à la hauteur de l'Olympique de Marseille à la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Donc match très important à suivre en intégralité. Bien sûr, vous avez parlé d'Auxerre qui prend 3 points très très précieux dans la lutte pour le maintien, 16e provisoirement au classement. On parlera d'Auxerre également avec nos experts, avec notamment les réactions notamment de l'entraîneur de la JA. Et puis on le foot étranger, comme chaque samedi, avec notamment le classique, le classico, non, Nine. Le classique, le match entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund qui a démarré il y a presque 45 minutes maintenant, on approche de la pause. Et le Bayern mène déjà 3-0 face au Borussia. C'est un match énorme, c'est plein à Munich et on en parlera avec notre correspondant permanent. C'est l'autre classique, le classique de l'autre côté de la frontière.
Le classiqueur quoi, comme le vous classiqueur. L'avez dit. Merci Lionel Rousseau, tout à l'heure 20h.
Et du rugby féminin et ce gros carton des Françaises pour leur deuxième match en tournoi destination. Les Bleus ont écrasé l'Irlande, le score 53-3. Ouf, et puis cette dernière, comme vous dites, l'info qui se termine avec cette immense fierté pour Tony Parker. Le basketteur français va rentrer au panthéon du basket américain, le fameux Hall of Fame. Tony Parker, quadruple champion de la NBA avec San Antonio et le premier français de l'histoire à faire son entrée donc au Hall of Fame.
Merci Guilhem de Prévoisin pour le journal de 19h. La météo, Valérie Darmon, le temps s'améliore demain, mais les températures baissent.
Effectivement, avec des maximales qui repassent sous les normales de saison, Météo France annonce 9 degrés aux heures les plus chaudes de ce dimanche à Boulogne-sur-Mer, 10 à Lons-le-Saunier, 11 degrés à Metz, à Cherbourg et Châteauroux, 12 degrés seulement à Paris et à Lille, 13 à Rennes et à Tours, 14 à Brive-la-Gaillarde et Périgueux, 16 à Mont-de-Marsan et Perpignan, 18 à Avignon et enfin la maximale des maximales, 21 à Toulon. Tout cela sous un ciel qui s'améliore au fil de la journée, avec le retour d'abord d'un plein soleil sur la région de Lille jusque sur Amiens. Quelques vagues éclaircies qui prennent de plus en plus d'importance néanmoins depuis la Basse-Normandie jusqu'en Gironde, en passant par la Vendée et les Charentes, avec de très rares averses dans ce ciel qui s'éclaircit. De belles éclaircies sur la région parisienne pour le marathon de Paris. Et puis toujours de la pluie, de nombreuses averses, pas d'orage depuis l'Alsace, le Jura, les Vosges, le massif alpin et la région lyonnaise, jusque sur les Pyrénées, avec quelques vagues éclaircies et puis du soleil de nouveau sur la Côte d'Azur. Grâce au vent notamment, Mistral et Tramontane qui soufflent aux alentours de 90 km/h.
Merci Valérie Darmon, 19h15 sur Europe 1. Connaissez-vous le hangar Y à Meudon? Non, c'est l'occasion d'y aller. On y va dans quelques instants.